Pierre-François Martin Laval, bonjour. Alors vous retrouvez à Namur pour nous présenter Faïm qui sort le 16 octobre. Il s'agit de l'adaptation de l'ouvrage de Xavier Parmentier, Un roi de clandestin qui était sorti en 2014. Vous avez de la suite dans les idées là, non ?
Oui, alors quand vous dites Xavier Parmentier, attention, c'est aussi signé par Faïm lui-même et une écrivaine, voilà, Sophie Le Galenec.
Parce que ça fait plus de 4 ans, vous avez eu un flash et puis vous avez dit « je le veux ».
En fait, j'ai eu un flash, c'est vrai, mais j'étais prédisposé. C'est-à-dire que ça faisait vraiment quelque temps, en 2013, que je voulais traiter de ce qui me touche au plus profond de moi-même dans la vie. Je me suis dit « tiens, je fais tout le temps de la comédie parce que c'est ma passion, parce que moi je me cache toujours derrière tout en faisant rire et que j'ai pas envie d'embêter les gens avec ce que je pense. » Et puis un jour je me suis dit, mais puisque je suis comblé là-dedans, est-ce que j'oserais pas un peu faire éclater la bombe que j'ai dans le cœur? Et c'est quand je suis tombé sur Faïm à la télé qui parle de son histoire que j'ai été sous le choc. J'ai acheté donc Un roi clandestin. Et là, il m'est arrivé une sensation très curieuse, c'est que je lis l'histoire d'un père et d'un fils, et à la fois je me dis, mais je les ai croisés dans Paris. J'ai dû les croiser, je devais être en scooter, j'ai dû les voir par terre, j'ai rien fait, j'ai continué de rouler. Son père a dû me proposer une rose rouge pendant que j'étais au restaurant, j'ai dû faire un petit sourire hypocrite ou... Enfin voilà, et puis continuer ma route, quoi, parce que j'ai pas envie d'acheter une rose rouge pourrie. Et là, je me suis dit, merde, ça suffit. Là, je les connais maintenant. Je les connais, ces gens. Et je veux montrer ce qu'ils ont souffert, quoi, ce qu'ils ont vécu. Parce que quand on les voit dans les images du JT de 20h, tous les soirs, en fait, on se rend pas compte, quoi. Je crois qu'on se rend pas compte. On voit des groupes, en fait. Et on ne sait pas, on n'est pas avec eux quand ils quittent la personne qu'ils aiment le plus au monde, tout ça pour sauver leur peau, parce qu'ils sont obligés de prendre cette décision, on ne le voit pas tout ça. Donc, une fois sur deux, on se met à penser que peut-être qu'ils auraient mieux fait de rester chez eux. Et voilà, c'était pour ça que je voulais faire
cette immersion que vous avez pour préparer le sujet, comment ça s'est passé?
Alors, ça s'est passé, déjà... Quand j'ai lu le livre, je me suis dit je veux faire le film. Et là, j'ai rencontré le producteur qui avait les droits du livre.
Patrick Godot.
Voilà.
Qui avait déjà les droits.
Voilà, c'est ça.
C'est ça.
En fait, oui, exactement.
C'est comme ça que vous n'avez pas travaillé avec Romain Rochman.
Exactement. Et je dois vous dire que c'est pas dans la ligne éditoriale de Romain qui voulait avec moi faire des comédies.
Et des films du 24.
Ouais, voilà. Ouais. Mais toujours est-il que c'est Patrick Godot le premier qui a eu l'idée. D'ailleurs, il a acheté les droits avant que le livre soit écrit. Et on est parti au championnat de France d'échecs à Montbéliard en 2014. Là, on a rencontré Faïm et l'entraîneur, Xavier. Et je me suis mis en immersion tout de suite. Là, vraiment, en voyant le petit jouer, en voyant son entraîneur le coacher, faire des débriefs avec ses élèves dans un petit appart miteux de location, j'ai commencé à écrire, quoi. Et puis, je me suis plongé dans le livre parce que pour moi, dans le livre, il y avait tout, quoi. Donc, on a fait un travail d'adaptation.
Vous avez travaillé avec Thibaut Vanhul qui avait déjà écrit C'est beau la vie pour Juno, qui avait travaillé avec Romain, je crois.
Ouais.
Et en même temps avec Philippe Elnaud, vous le connaissiez comme acteur.
Oui, et Philippe Elnaud.
Comment vous êtes réparti un petit peu le travail
Alors, au début, c'était un peu foutoir au début. Parce qu'au début, j'ai confié le travail à Philippe Elnaud parce que j'écrivais un autre film. Et Philippe Elnaud vient du théâtre, il est auteur de théâtre. Il a rendu un résumé, enfin une partie du scénario, mais avec les qualités et les défauts qu'il a, les qualités de dialoguiste et les défauts de scénariste qu'il n'est pas. Donc là, j'ai fait appel à Thibaut Vanhul, qui est joueur d'échecs, qui a été d'un très bon niveau pour m'apporter une culture. Voilà. Et puis
vous
moi.
Êtes joueur, voilà. Vous-même ?
Non.
Oui,
non, carrément. J'ai pris des cours à la fin parce que ça me démangeait de les voir tous progresser sauf moi. Voilà. Et donc c'est vrai que comme je les voyais tous se régaler, j'en avais marre de rien y comprendre, quoi. Voilà.
C'est votre premier biopic. Vous êtes spécialiste des adaptations BD. Est-ce que le travail est le même ?
Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est-à-dire que moi, quand je fais un biopic et que j'ai la chance que la personne dont je parle est encore vivante, je veux la faire main dans la main avec elle. Ça ne veut pas dire qu'elle est présente ou qu'elle m'aide à travailler, mais ça veut dire que je ne veux surtout pas qu'elle ne soit pas fière du résultat. Parce que, de toute façon...
C'est un sacré enjeu, quand même.
Oui, parce que la personne va forcément être étonnée, voire choquée, de voir des choses qui ne lui sont pas arrivées. Mais on est obligé... Quand on raconte en 1h45 3 ans et demi de vie de SDF sans papier, on est obligé de faire des choix. Et on est obligé de contracter, de trouver des solutions pour raconter parfois en 30 secondes quelque chose qui a pris des mois et des mois. Et donc là, de ce côté-là, j'ai toujours montré à Fahim ce que je faisais. Il le racontait à son père, qui ne parle pas français, et je lui faisais lire. Et d'ailleurs... je lui ai dit s'il y a quelque chose qui ne va pas, et il ne s'est pas privé de me dire, parce qu'il n'a vraiment pas la langue dans sa poche, qu'il y avait 3 scènes qu'il détestait et je les ai enlevées. Ah ouais. Je me suis défendu un peu parce que je trouvais moi qu'elles étaient très bonnes et drôles, et lui ça le rendait vert de rage. Il ne voulait pas que je donne cette image de lui sur 2 ou 3 scènes ou de son père, et donc j'ai vraiment enlevé tout ça parce que je voulais que...
Et c'était au niveau d'écriture ou du montage ?
Au niveau de l'écriture. Ouais. Et heureusement, parce que au niveau de l'écriture, vous faites le deuil très vite. Vous coupez avec l'ordinateur et vous oubliez. Alors qu'au montage, vous avez choisi des acteurs, des décors, des semaines de boulot. Et là, ça fait très mal. Mais c'est le travail aussi du montage, hein, de se faire mal. Mais non, je l'avais fait dès le début.
Interprétation. Alors, le Fahim en question, ça t'amène. C'est un coup de poker quand même. Hein. Vous avez une bonne étoile pour l'avoir découvert. Plus de 500 personnes en casting.
Je ne sais pas combien de fois j'ai eu peur en préparation du film, mais c'est là où j'ai eu le plus peur, c'est pour le choix du rôle de Fahim. Parce que pour moi, c'était le plus important de toute l'aventure. Trouver un enfant qui soit crédible, où on ne se pose pas de questions, où on se dit ça lui arrive en vrai. Et c'est vrai que jusqu'à peu de jours avant le tournage, j'ai rencontré que des enfants où je n'y croyais pas du tout. C'était pas de leur faute, les pauvres. Hein. J'avais choisi.
Tu aurais pu en arriver à dire je ne fais pas le film.
Bah oui, parce que j'allais pas partir sur un sujet aussi grave avec un enfant qui récite, qui parle faux, ou qu'on n'y croit pas quand il se sépare de sa mère. Ou... Voilà, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça serait injuste de dire que le film tient sur lui. Mais en tout cas, on peut dire que si à un moment il n'est pas crédible, c'est la catastrophe. C'est quand même le héros, quoi. On peut peut-être oublier un mauvais acteur dans une scène si c'est un troisième rôle. Mais si c'est le rôle principal, c'est juste foutu, quoi.
Alors, Depardieu, bien sûr, vous le connaissiez comme partenaire. Quel acteur. Facile à diriger, le fait de l'avoir connu comme partenaire, ça aide ?
Alors, non, on ne parlait pas de ça d'ailleurs avec Depardieu, on ne parlait pas de notre première rencontre. Une fois, il m'a parlé d'heureux, mais voilà, et c'était il y a longtemps d'ailleurs. Mais on a beaucoup parlé avant le tournage, mais de plein de choses qui n'ont rien à voir avec Fahim. On a parlé de l'histoire du Japon, de la guerre d'Algérie, enfin de tas de choses. Après, je lui ai apporté quelques clés sur toute cette famille, le père, le fils, l'entraîneur. Mais après, j'ai plus rien à lui dire, en fait. C'est-à-dire que Depardieu, quand il arrive le matin, je lui montre ma mise en scène que je prépare très, très en amont. Et ça lui va totalement. C'est-à-dire qu'il n'a rien à redire sur la mise en scène, il n'est pas là pour ça. Et en revanche, je ne le dirige pas, quoi. C'est-à-dire que lui, il veut juste une chose. Une fois qu'il a vu ma mise en scène, il veut que je dise action. Parce qu'il est très impatient, il est très heureux quand il joue. J'ai l'impression que qui le vit, qu'il est vraiment dans un personnage et que c'est son grand bonheur. Et donc c'est ça qu'il attend, et j'ai rien à lui dire et il attend rien de moi d'autre. Juste, il veut savoir quand je coupe, il veut savoir ce que j'ai ressenti, quoi, voilà.
Un grand merci en tout cas. On rappelle que le film sort le 16 octobre.
Eh oui.
Merci Pierre.
Merci.